faire une discussion, on adopte le type de tour de parole, où chacun lève la main et puis il y a quelqu'un qui va prendre la parole.
Comme
ce qu'on avait fait la première fois.
Alors, je me présente, je m'appelle Cécile. Il y a 4 ans, j'ai fait un mémoire de débat de philosophie sur Buffon et l'animalité. Et l'année d'avant, j'avais fait un travail de maîtrise de philo sur la question de l'animalité d'un point de vue un peu plus général, historique. Et donc, pour ce qui va suivre, c'est la première fois que je présente ce que je fais en public. Donc, il se peut que je me gourre un peu, que ce soit pas clair, etc. Donc, il faut vraiment pas hésiter à m'interrompre et puis à me demander de préciser soit mes idées ou soit le vocabulaire que je peux employer, qui est un petit peu peut-être technique pour certaines et certains d'entre vous. Bon, je vais essayer de faire un maximum, mais voilà. Alors j'ai préparé des notes, alors je vais peut-être lire un petit peu au début, tenter de me détacher de mes notes, voilà. Alors donc c'est sur Buffon. Qui est Buffon? Alors Buffon c'est un naturaliste, donc un savant du XVIIIe siècle. Il a écrit l'Histoire naturelle, donc c'est un projet encyclopédique, c'est-à-dire que il va avoir un projet de connaissance qui va s'étaler sur des années et des années. Et en fait, il veut traiter la question de qu'est-ce que l'animalité, comment comprendre l'animal et à partir de quels critères on peut traiter de notre rapport à la connaissance et notre rapport à la connaissance des animaux et aussi des plantes. Mais pour lui, c'est vraiment la question de l'animal qui le concerne en fait. Alors, je me suis posé pourquoi l'histoire naturelle de Buffon, quel intérêt pour un séminaire sur la question animale et en quoi ça pourrait s'inscrire dans une orientation militante. Donc ça, c'était une des premières questions que je m'étais posée. Alors, dans l'optique d'une approche critique de l'humanisme, il est intéressant, voire nécessaire, de comprendre l'histoire de l'humanisme. Et quand je dis histoire, c'est plus d'un point de vue archéologique, c'est-à-dire dans la construction du discours sur l'humanisme, afin de cerner comment le discours sur l'animal non humain et l'humain se construit, afin de saisir ce qui est en jeu. Le fait de comprendre ce qui est en jeu derrière le discours sur l'animalité peut nous permettre d'agir au plus juste. Alors, je reviens sur pourquoi Buffon et l'histoire naturelle. Ils sont marrants. En tant que savant, il participe à l'élaboration du discours scientifique, c'est-à-dire à la production d'un ensemble de connaissances qui positionne l'humain dans le monde et lui donne un statut de sujet connaissant. Cette posture du sujet parlant, connaissant, capable de produire un discours sur les êtres et les choses, permet aussi de comprendre la manière dont il justifie son statut d'exception. Donc ça, c'est le fait que l'homme se situe au centre des choses et justifie sa supériorité et au centre du discours humaniste. Mais avant d'en arriver là, avant de savoir comment la science justifie la position exceptionnelle de l'homme, il faut s'interroger sur les conditions d'apparition de la rationalité scientifique classique. En effet, comment comprendre le contenu d'un discours, et ici du discours savant sur les animaux, sans saisir son contexte historique? Passer outre cette interrogation conduirait à des erreurs d'appréciation. En effet, on juge à partir de codes, de références inscrites dans une temporalité, donc c'est-à-dire moi, femme du 21e siècle, je comprends ce que peut être l'animal à partir d'une histoire. Donc ce qui est important, c'est de ne pas en fait, coller des, nos systèmes de pensée, nos valeurs sur, par exemple, ce que pouvait signifier animal humain au XVIe siècle ou même plus tard à l'époque classique au XVIIIe siècle. Donc il faut toujours avoir ce recul critique. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur Foucault, donc les mots et les choses, Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être marrant, on a fait un ami.
C'est votre dernier mot ?
C'est votre dernier mot. Alors pour cela, on va s'appuyer sur Foucault pour comprendre la place que prend l'histoire naturelle dans la pensée classique. Alors, donc... Je répète, il s'agit de comprendre comment le discours scientifique se construit sur l'animal à partir de l'époque classique, donc on va dire à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc, avant le XVIIe siècle, faire l'histoire d'un animal ou d'une plante, c'est dire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on a entendu de la chose. Alors, c'est-à-dire qu'on va, faire des collections. On recueille les vertus des plantes ou des animaux, on va collectionner les légendes, les blasons, ce qu'on peut faire, l'utilité qu'on a par rapport aux animaux et aux plantes, donc les médicaments. Ainsi, la distinction que nous, on peut faire, donc la distinction contemporaine entre observation, fable, document, n'a pas lieu d'être à l'époque, donc avant l'âge classique. On est dans un autre registre de rapport à la connaissance. En effet, pour le compilateur du XVIe siècle, la nature est un tout multiple, c'est un tout mystérieux. Le savoir, donc connaître la nature, consiste à interpréter les signes déposés au cœur des choses. C'est un savoir basé sur l'interprétation, car le monde est un ensemble de signes, de marques, qu'il s'agit de déchiffrer, et le mode de ce déchiffrement est l'analogie. Autrement dit, connaître les choses, c'est restituer leur proximité dans un monde qui n'est que répétition. La terre répète le ciel, les parties des plantes répètent celles du corps humain, ou encore le végétal est un animal qui se tient la tête en bas ou alors en haut. Donc c'est l'idée que les choses communiquent entre elles par le jeu des ressemblances. Alors en fait, au XVIe siècle, et même un petit peu avant, est vrai ce qui se ressemble, est vrai ce qui est proche. En fait, on n'est pas dans le même registre de connaissances qu'à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, où, je vais l'expliquer plus tard, le vrai repose sur la décomposition, sur l'analyse. Là, on est dans un système de connaissances où on pense que toutes les choses en fait ont un lien entre elles, qu'elles se ressemblent, et que c'est par le biais des analogies qu'on peut finalement dresser un système de connaissances. Donc le point de convergence de ces analogies est l'être humain. Chaque partie de son corps est en proportion avec la terre, le ciel, les animaux. Ses os sont des rochers, donc ça c'est des exemples. Ses veines peuvent être comme des grands fleuves. Sa vessie c'est la mer et inversement. En fait, la nature se reflète en lui et reflète la nature. Aussi, il est moins humain qu'animal, humain puisqu'il fait partie du système des ressemblances. C'est-à-dire que avant l'âge classique, bon, bien sûr, il y a cette notion de humain et de non-humain, mais c'est pas aussi tranché parce que l'humain fait plutôt partie d'un système général où finalement il s'inclut bon an, mal an. Il y a pas encore le monde est centré autour de lui. Il y a bien sûr des hiérarchies par le biais des analogies, mais il y a pas encore une constitution d'un discours scientifique qui va pour le coup placer vraiment l'être humain comme sujet et ce qui n'est pas sujet comme objet. Donc il y aura pas ce très fort décalage. Faut m'arrêter si c'est pas clair. Hein. j'en étais. Voilà.
Et l'Église, elle était par rapport à.
Oui, justement, l'Église, elle précise bien que l'homme est d'essence divine, contrairement aux plantes, aux animaux, etc. Mais il est bien dit aussi que l'homme arrive sur Terre comme une espèce de gestionnaire qu'il a pas vraiment. Il est supérieur parce qu'il a, la pensée, parce que... Mais il n'est pas... Je veux dire... le monde qui est constitué autour de lui a été aussi, est aussi une création de Dieu. Donc il y a en effet cette supériorité donnée à l'homme, mais c'est, ça sera tranché autrement dans le discours scientifique, ça va se transformer d'une autre manière. Donc je précisais ça tout à l'heure. Alors voilà, je vais faire une petite digression par rapport à ce que je viens de dire. En fait, voilà, il y a certaines théoriciennes féministes anglo-saxonnes comme Londa Schibinger ou encore Caroline Merchant qui considèrent que cette période de l'histoire, donc avant le 17-18e siècle, fut plus favorable à la prise en compte du monde non humain sensible. Alors pourquoi ? Avant la révolution épistémologique, donc de la connaissance entamée au XVIIe siècle avec Descartes, Bacon en Angleterre, l'humain, bien que placé au centre de la création, devait compter sur un environnement qu'il maîtrisait plus ou moins. À cette époque-là, il n'y a pas de séparation radicale entre humain et non-humain. Tout est inscrit dans un tissu de croyance qui atteste de l'existence d'êtres mixtes. Le non-humain agit au sein de la sphère des hommes et des femmes et inversement. C'est-à-dire que les femmes et les hommes peuvent intervenir sur les animaux peuvent intervenir sur l'homme. Donc là, ça reprend un petit peu l'idée que je viens d'énoncer, c'est qu'il n'y a pas une claire... La séparation entre que nous, on se représente entre l'homme et l'animal, l'humain et le non-humain, ne s'inscrit pas dans le même discours, dans les mêmes représentations, avant le XVIIe siècle. J'en suis où ? Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de séparation radicale entre l'humain et le non-humain. Donc d'après Caroline Merchant, cet égalitarisme entre humain et... Enfin, égalitarisme entre guillemets, hein, parce que c'est pas totalement un égalitarisme, mais c'est plutôt une espèce de... d'aplanissement des hiérarchies entre humain et non-humain aurait été rendu possible par une meilleure répartition du savoir et du pouvoir entre les gens, entre hommes et femmes. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Oui. En fait, ce qu'elle dit, c'est que avant l'âge classique, avant le XVIIe et XVIIIe siècle, le savoir, il était en gros... et le savoir, ce n'est pas forcément le savoir scientifique, c'est les savoirs. Ils étaient... répartis entre hommes et entre femmes. Les femmes avaient un savoir, les hommes avaient un autre savoir, et il y avait des zones de chevauchement. À partir, alors ça c'est son point de vue, je ne dis pas que c'est forcément lui, hein, mais à partir du XVIIe siècle, il va y avoir primauté du savoir scientifique, et c'est un savoir qui va être vraiment dominé par les hommes, par le genre masculin. Et en fait, cette... le fait que ce soit un savoir instrumentalisé, etc., va faire que toute une partie du savoir qui avant incombait aux femmes, savoir des plantes, savoir connaissance des animaux, qui était aussi, la classification homme-femme n'était pas aussi tranchée, mais on va dire que les femmes participaient à un type de savoir qui va être complètement mis de côté à partir du XVIIe siècle. Et en fait, selon elle, le fait que qu'à partir du XVIIe, les femmes ne puissent plus participer au savoir, enfin, à l'accès d'un savoir, dont le savoir scientifique, explique la raison pour laquelle les non-humains sensibles vont être déconsidérés par les humains, notamment par les savants.
Et les femmes.
Pardon ?
Et les femmes.
Donc, en ce qui me concerne, il n'est pas question d'idéaliser un âge d'or des rapports interhumains ou extra-humains, pas extraterrestres, car on appliquerait nos catégories de pensée, c'est-à-dire égalité, liberté, à une situation historique qui ne peut s'inscrire dans les questionnements contemporains. En revanche, la prise en compte du discours, des représentations et des rapports sociaux masculins-féminins est une possibilité explicative pour saisir l'évolution du discours sur l'animalité et notamment le discours sur l'animal. En effet, tout à l'heure j'ai parlé de Schillinger. D'après Schillinger, les catégories de genre masculin-féminin, telles qu'elles apparaissent dans le discours à l'époque moderne, construisent le langage scientifique et inversement. Par exemple, la représentation, les représentations masculin-féminin interviennent dans la classification du vivant. Schillinger montre en effet comment le genre masculin-féminin est utilisé pour créer les catégories de sexe mâle-femelle, comment sont sélectionnés les critères physiques pour inscrire ontologiquement le sexe dans le corps, et comment on est et créer, par exemple, la catégorie des mammifères. Donc, en fait, les signes culturels attribués au genre masculin et féminin deviennent deviennent des marques, c'est-à-dire ce sont des stigmates qui sont finalement produites par un discours qui s'inscrivent dans les corps et qui témoigneraient d'une espèce d'ontologie du vivant, alors que finalement c'est purement une création. Donc en fait, il est important de prendre en compte l'ensemble des facteurs qui construisent le langage, le discours, les représentations dominantes. Donc là, on en était, avant l'époque classique. Donc là, l'époque baroque, donc c'est en gros ce qui... C'est entre deux avant enfin, voilà. Je sais pas si je... annonce la crise de cette représentation. Donc, on parlait des analogies, de la ressemblance, etc. Donc voilà, l'époque baroque annonce la crise de cette représentation. Les codes se brouillent. La ressemblance et l'analogie perdent leur force explicative. On évoque une certaine ironie à l'égard de ce système de correspondance. Et cette ironie par rapport au fait qu'on pensait que les choses se ressemblaient, que par analogie on pouvait avoir une compréhension du monde, ça annonce le bouleversement du discours, des représentations de l'âge classique. Alors, pour Michel Foucault, c'est parce que le langage subit une mutation que les représentations changent. Cette mutation traverse le langage et la connaissance. Voilà, alors je vais passer à l'âge classique. Donc, à l'âge classique, le système de connaissance n'est plus basé sur la ressemblance, et sur les rapports analogiques, mais sur la représentation. Connaître signifie désormais faire l'histoire d'un individu, donc d'une plante ou d'un animal, sans entrer dans les détails. À partir de l'âge classique, la similitude, l'apparence sensible est considérée comme le lieu de l'erreur, notamment chez Descartes. Donc en fait, voilà, pour synthétiser un petit peu ce que je viens de dire, avant le 17e, les choses qui se ressemblent, la ressemblance, c'est ce qui permet de comprendre les choses. On a accès à la vérité par le système de ressemblance et d'analogie. Avec Descartes, il y a quelque chose qui va s'inverser, c'est que pour lui, ce qui se ressemble, c'est pas par la ressemblance qu'on peut connaître. C'est en décomposant les choses, en les analysant et en les comparant qu'on peut finalement avoir accès à la vérité. Voilà. Donc à partir de l'âge classique, on change de formation, on change de représentation, car il y a un rapport nouveau, alors ça c'est la thèse de Foucault, un rapport nouveau entre les mots et les choses que les mots désignent, se transforme. On est dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire que avec le sujet, avant on était dans un rapport de ressemblance et d'analogie. À partir de l'âge classique, on est dans un rapport de représentation avec l'objet, où l'objet est mis à distance et représenté. C'est-à-dire qu'il y a, y a une différence qui s'inscrit entre le sujet connaissant et l'objet que le sujet pose devant lui et observe. En fait, c'est un rapport d'objectivation. On prend un objet, on le met devant nous et on essaie de regarder un peu comment ça marche finalement. Et ça, avant, ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas cette coupure entre le sujet connaissant et l'objet observé. Donc sujet et objet se détachent et il y a une subordination de l'objet par rapport au sujet. Donc l'univers de l'animal, qui avant était l'univers visible, métaphorique, utilitaire, ce que je disais au début, disparaît au profit d'une conception géographique, spatialisée, cartographiée de l'animal. Et Foucault dit, l'animal, alors l'être vif en son anatomie, en ses mœurs, en sa naissance et en sa mort, apparaît comme un vif. Donc ça, c'est aussi une des...
À nu,
parce que en fait, au XVIIe siècle, connaître un animal, en fait, c'est vraiment voir la géographie de son corps. On va le mesurer, on n'est plus dans un rapport où on mélange tout. Avant, on faisait connaître un animal, c'était faire les fables, etc. Tout ce que j'ai dit un petit peu avant. À partir du XVIIe siècle, on va regarder vraiment les choses comme des objets et on va cartographier le vivant, on va mesurer, on va dresser des cartes. Et je poursuis parce que voilà. Donc le mot histoire change de valeur. D'une histoire recueil faite de documents et de signes, où l'historien a pour rôle de faire parler les mots, on passe à une histoire du regard et de transcription où le langage est neutralisé, épuré. Et Foucault dit, c'est la possibilité de voir ce que l'on pourra dire. Voilà. Il y a un changement, donc je répète à nouveau, il y a un changement dans le rapport du sujet à l'objet, ou plutôt, à partir de l'âge classique, il y a la naissance d'une relation entre sujet et objet, puisqu'avant l'âge classique, cette division n'existait pas. Donc les bases de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle connaissance de l'animal, s'effectuent à partir des herbiers, des collections, des jardins, et des cartes. Le lieu, c'est l'espace, la longueur, la largeur, la géographisation, le rectangle intemporel, c'est-à-dire que les êtres se présentent les uns à côté des autres avec leur surface, et ces surfaces sont attribuées d'un nom. Donc pour synthétiser tout ça, en fait, c'est... On va regarder les êtres sensibles ou non sensibles d'ailleurs d'une nouvelle manière, avec un nouveau langage, ou avec ce langage par la mesure, le calibrage, la description et la géographisation des corps, on va neutraliser ce qu'on va étudier. C'est-à-dire qu'avant avant cette époque-là, il y avait une espèce on appellerait ça mystique, mais il y avait tout un champ métaphorique qui entourait la connaissance des animaux. À partir du 17e, on va vraiment prendre des distances par rapport à ce qu'on étudie. La création du langage scientifique, elle se fait vraiment à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment poser à distance, on va dire voilà. Cet animal, c'est un objet, on peut le décomposer de cette manière-là. Donc il n'y a plus vraiment de rapport autre que un rapport finalement assez froid, et enfin froid, assez un rapport de distance, quoi. Donc ce n'est pas le désir de savoir qui change à l'âge classique, mais une nouvelle façon de nouer les choses, à la fois au regard et au discours, une manière de faire l'histoire. Donc, contrairement à ce qui est dit, l'histoire naturelle n'apparaît pas parce qu'on voit mieux les choses. Au contraire, le champ du regard se rétrécit, on sélectionne ce qui est vu. Donc l'observation à partir du XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, l'observation pure, elle commence à être un petit peu déconsidérée, parce qu'on considère justement que enregistrer les données sensibles, c'est finalement quelque chose de nécessaire, mais qui doit être dépassé. C'est la première étape avant l'analyse. Et ça, c'est clairement une question que se pose Buffon. Parce que dans son tome, enfin, je fais une petite parenthèse, mais dans son tome 1, en fait, de l'histoire naturelle, il se pose 20 000 questions sur comment peut-on connaître l'animal, quels sont les principes que l'on peut adopter pour la connaissance des animaux. Et donc, il va aussi se poser la question sur comment observer, comment comparer, etc., etc. Donc, à l'âge classique, les cinq sens ne sont plus source de connaissances. Seul le regard garde son privilège. Et encore, les perceptions sont sélectionnées. C'est-à-dire qu'avant l'âge classique, c'était vraiment les cinq sens qui étaient mobilisés, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. À partir du XVIIe, c'est vraiment la vue, la géographisation de l'espace. Et ça va être ça, vraiment, qui va déterminer la connaissance. Donc c'est un regard filtré, épuré à travers la grille et le tableau, c'est ce regard-là qui est capable de produire un savoir. Le champ du regard est donc délimité par les conditions restrictives. Observer, c'est voir moins. C'est renoncer à la profusion des choses. C'est voir ce qui peut être analysé, c'est-à-dire comparer et diviser. Et ainsi mettre fin aux choses qui se ressemblent, aux similitudes et à l'analogie. Connaître égale discerner, c'est-à-dire dresser le tableau des identités et des différences. Donc en fait, l'histoire naturelle, finalement, elle se constitue comme un langage. L'histoire naturelle se constitue comme un langage. C'est-à-dire qu'elle va... Elle va justement, parce qu'elle s'inscrit dans ce grand projet de connaissance des choses du XVIIe siècle, elle va produire un langage, un discours, des représentations qui va faire qu'on ne va pas pouvoir penser les choses autrement, parce qu'il y a un nouveau langage d'histoire. Okay ? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, j'en étais où ? Alors, l'histoire naturelle, ou la science naturelle, est le langage qui permet de parler de l'animal et de la nature. Donc, quand je dis animal, c'est animal, bien sûr. Ses herbiers, ses cartes, ses tableaux, ses méthodes d'observation, de découpe du monde non humain, sensible ou non, ont construit un langage purifié qui rationalise le rapport à l'objet. C'est-à-dire qu'on classifie l'objet en termes de forme, de grandeur, de nombre ou de position. Et cette rationalisation du rapport à l'objet permet de voir les choses sous un autre regard. C'est-à-dire que dès que le langage se transforme, on ne voit plus de la même manière. Et je veux dire, c'est un rapport un peu dialectique. Le langage arrive avec la vue et la vue contribue au langage. Donc on peut désormais nommer autrement les choses. Alors, il n'y en a plus pour longtemps, j'avais préparé un truc aussi sur Descartes, mais je crois que je ne vais pas vous assommer davantage. Si ça vous dit, on en reparlera peut-être plus tard, parce que je trouvais que c'était quelqu'un d'assez intéressant, ne serait-ce que par ses thèses qu'il a pu développer. Bon, après, je pense que tu as dû en parler lors de ton intervention. D'accord. Alors, on va parler de l'image de la nature. Alors, qu'est-ce que la nature pour Buffon ? Alors, en gros, hein, parce que
Donc Buffon, il arrive après Descartes et...
Voilà, voilà. Donc Descartes, c'est, va dire, c'est Sang et des grelots. L'histoire, premier terme de l'histoire naturelle, c'est 1749. Donc c'est presque un siècle plus tard. Pas totalement, mais presque un siècle plus tard. Alors, pour Buffon, il utilise tout un panel de mots pour décrire ce que c'est que, enfin, pour nommer la nature. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il en pense, parce qu'à la fois, des fois, il pourrait être très, très cartésien en disant « Ouais, la nature, c'est pas cette grande déesse qu'on croyait être, etc. » Puis des fois, il part carrément... il a des envolées lyriques par rapport à la nature, cette douce mer, machin, etc. Donc, c'est assez difficile à saisir. Mais en gros, pour lui, c'est un grand tout où minéral, végétal, animal et homme font partie. Donc, le postulat numéro un, c'est que pour Buffon, la nature est continue. Il n'y a pas de rupture. Et ça va être toute la difficulté pour lui. Pour Buffon, les êtres et les choses se ressemblent. Il n'y a pas de grande rupture. Et cet a priori sur la continuité est communément partagé par Linné, Buffon et Bonnet. C'est l'exigence de continuité dans la nature qui permet de fonder la connaissance classique. Donc ça, c'est aussi ce qu'a développé notamment Foucault. C'est-à-dire que la nature est considérée comme continue et ordonnée, mais l'expérience sensible est incapable de nous la restituer, car la nature, au cours de son histoire, au cours des époques, a subi des bouleversements, des transformations. Donc, il y a cette histoire que avant la nature, elle était ordonnée. En gros, Dieu l'a créée, puisque bon, elle était ordonnée. Chaque animal, plante, etc., avait sa place. Mais que avec l'histoire, la nature a subi des bouleversements. Donc l'ordre qu'on aperçoit maintenant, c'est un peu un ordre dont on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, parce que ça a été bouleversé.
C'est ce que pense
Buffon. Ouais. Donc au cours des époques, la nature, le monde a subi des bouleversements. L'ordre premier n'existe plus, il faut donc le restituer.
Mais c'est quoi cet ordre premier? C'est un ordre hiérarchique aussi. Dieu, le début de la Bible.
Alors.
C'est clair, quoi, je veux dire, à ce niveau-là.
Oui, alors, pour Buffon.
Dieu, le Verbe, justement, enfin, en plus, c'est le Verbe.
Oui, alors, dans la religion, en effet, ouais.
J'ai l'impression qu'on retrouve ça, quoi, si vous voulez, en définissant, on finit par. Par réduire justement le mot finalement tue la diversité, tue la fusion de tout ça, enfin ce qui est dit avant, et apparemment on retrouve un peu l'idée première pour moi, c'est une idée hiérarchique, tout ce qui est Dieu en haut d'une pyramide, c'est un monde vertical, avec quelqu'un qui est au-dessus, qui ordonne tout, donc ça vient de là, je veux dire, cette horreur. Si le monde était plus, bon, au contraire, horizontal, et puis il y a des choses, c'est-à-dire qu'on est égal à l'arbre, à l'animal, enfin, on a une différence, mais on est égaux, je veux dire, ça vient de
la hiérarchie
divine, enfin, je veux dire, il me semble qu'on retrouve ça dans Descartes, Descartes m'a toujours emmerdé. Je me suis farci à l'école comme tout le monde. Je ne suis jamais plus revenu sur lui, mais je sais un petit peu tout ce qu'il dit. C'est un petit peu ça qui reprend. Enfin, on a l'impression qu'on reprend une idée.
En fait, je connais pas.
Dans le monothéisme, dans tout.
Ah oui, non, mais oui, là-dessus, oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si finalement Buffon, il. Sur ce coup-là, il nous fait le coup de la religion. Peut-être qu'il est plutôt dans.
Je pensais à Descartes, là, mais moi, Buffon.
Parce que là, quand je parle de Buffon.
Oui, j'essaie, mais je ne voudrais pas parler aussi de.
Oui.
Descartes, mais c'est sur. Et c'est la parole que vous venez de dire qui m'a amené à.
Oui, bien sûr.
À repenser à cette hiérarchie qui est déjà
inscrite
dans la Bible.
Ouais, c'est inscrit dans la Bible.
Tu les cordes et tu domineras sur les bêtes, ce n'est que ça. Avec mes élèves, j'apprenais l'impératif avec le début de la Bible, en sixième. Oui, c'est que ce n'est que ça. Donc, est-ce que ce n'est pas cette idée qui est.
En fait, là, il y a sans doute ce présupposé religieux, mais je pense que en ce qui concerne Buffon, pour ce qui est, enfin, c'est plus. Je pense qu'en effet, il croit que. En fait, je sais pas s'il croit en effet qu'à un moment donné, il y avait un ordre qui était posé, parce que voilà, en effet, dans la Bible, au septième jour, tout est organisé, ou si c'est simplement une condition de départ qui lui permet de penser sa théorie, en fait. Comme chez Rousseau, par exemple, pour penser le sujet politique, il va penser le sauvage, quoi. Je pense que Rousseau n'a jamais pensé que le sauvage tel que lui l'a décrit a vraiment véritablement existé, mais c'est une condition pour lui pour penser le sujet politique. Et je me demande si finalement le fait pour Buffon de dire que bon voilà à une certaine époque la nature était on va dire organisée lui permettrait pas de finalement de justifier sa position par rapport à la connaissance des choses. Quoi.
C'est intéressant cette idée que finalement observer d'une manière scientifique casse une sorte finalement de magie qui était préexistante ou finalement dans une sorte enfin magie je veux dire de
nous on nomme ça magie mais je pense pas que
voilà de l'endroit où les choses étaient ressemblantes finalement
voilà plutôt dans le débat après
oui. Bon.
Parce que sinon, en fait, on ne va pas avoir
Non, mais
intervention.
On peut reprendre cette question plus tard, de toute façon. Ouais. Alors, j'en suis où? Donc voilà, je rappelle, la nature est considérée comme continue et ordonnée, mais l'expérience sensible est incapable de nous la restituer. Donc du coup, pour restituer le continu dans la nature, pour avoir une connaissance de la nature comme un tout continu et ordonné, Buffon va passer par ce qu'il appelle la méthode naturelle, c'est-à-dire qu'il va créer une méthode censée restituer l'ordre des choses. Et je cite, il paraît, alors ça c'est Buffon, il paraît que le seul moyen de faire une méthode instructive et naturelle, c'est de mettre ensemble les choses qui se ressemblent et de les séparer de celles qui diffèrent les unes des autres. Dans un premier temps, alors voilà, ça c'est la méthode naturelle de Buffon. Dans un premier temps, on rassemble ce qui se ressemble, puis par la comparaison, on s'attache aux différences à partir desquelles on distingue les identités. Donc c'est la plus petite différence possible qui permet d'établir au plus juste les identités. Donc c'est par l'acte de comparaison, c'est l'acte de comparaison à partir de l'analyse des différences qui permet d'accéder à la connaissance. Donc on n'est plus, pour le coup là, on n'est plus dans une conception du savoir où le semblable permet de voir la réalité des choses, quoi.
Mais je
n'arrive
pas à suivre.
Ouais, justement, j'allais y revenir. Donc, dans un premier temps, en fait, on regarde les choses qui ressemblent. On est obligé de passer par ce premier stade d'observation. Mais ce n'est pas ce premier stade d'observation, contrairement à avant, qui va permettre de nommer les choses, de leur donner une identité. Là, ce qui se ressemble, c'est vraiment le premier stade. Après ce premier stade d'observation, on va comparer pour finalement voir comment les choses diffèrent et comment elles diffèrent. Et c'est dans la différence qu'on va pouvoir établir les identités. Donc ça change par rapport à avant. Avant c'était l'analogie, là c'est comparaison, analyse, différenciation, simplification. On n'est pas dans le même registre. C'est un gros clair pour tout le monde.
Avant, on voit ce qui se ressemble.
Voilà.
En fait, on fait des groupes,
par analogie.
Par ce qui se ressemble. Mmh. Et maintenant, les ressemblances ne servent qu'à mettre en évidence les différences.
Voilà, exactement. Alors, c'est un autre aspect. On rentre un petit peu dans le détail, mais je ne vais pas y rester longtemps. Alors, plus la catégorie est... Donc, Pardon ?
Non, je cherche un exemple.
Ouais, ouais. Eh ben...
Où avant on disait les grenouilles, puis ça regroupait les grenouilles, les crapauds, tous ces trucs-là,
voilà.
Bien différenciés.
Voilà. Bon, après, c'est vrai que la méthode de Buffon, elle ne va pas être la même que celle de Linné, quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs, moi je m'y perdrais maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai étudié la question. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on va, on va vraiment différencier au maximum les choses pour avoir toute une déclinaison, finalement, de nommer au maximum les différences et créer des identités à partir de ces différences. Donc du coup, plus la catégorie est générale, plus on s'éloigne de la réalité de la nature, qui, je le rappelle, est continuité et ordre. Plus on arrive à restituer le tableau des différences, plus on se rapproche de la réalité de la nature. En effet, pour Buffon, les grandes catégories qui sont genre, ordre, classe, n'existent que dans notre imagination. Et ça, c'est assez important. Il le dit à plusieurs fois. Même l'espèce, à la limite, l'espèce, elle n'existe pas en tant que catégorie générale. Il pense que chaque individu est une espèce. C'est la thèse de l'individualité de l'espèce. Parce que pour lui, toutes les grandes catégories générales, c'est des créations en fait, de l'imagination. Elles n'existent pas. Si on veut vraiment connaître les choses, il faut aller au plus petit et apercevoir les plus petites différences.
C'est une sorte de nominalisme.
Pardon ?
C'est une sorte de nominalisme.
Ouais, ouais, ouais.
Chaque chose existe de façon singulière.
Alors, on était dans la nature est continue. Là, deuxième postulat, la nature est ordre et ordonnée. Donc, l'a priori qui fonde les recherches au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle est l'existence d'une histoire naturelle, c'est-à-dire d'un ordre constant dont la science peut et doit rendre compte. La science doit parler le monde. Et quand je dis parler le monde, c'est pas parler du monde, c'est-à-dire créer un langage pour être à même de connaître l'essence des choses. Et cette essence-là, elle se restitue sous ce que j'avais dit tout à l'heure, la carte, l'herbier, etc. Donc ce langage doit être aussi précis que possible et l'histoire naturelle doit créer la langue la plus exacte possible, c'est-à-dire la plus universelle possible. Et ça, c'est important. Parce que l'histoire naturelle voilà, se veut langue capable de parler des choses telles qu'elles sont, et elle a cette langue-là a une portée universelle. Et ça, ça s'inscrit vraiment dans le projet du XVIIIe siècle universaliste, en fait. Donc, l'histoire naturelle forge à travers son propre discours une représentation ordonnée du monde non humain. Ordre donné à travers des grilles, des tableaux, des représentations, fidèles à un ordre réel, mais jamais donné d'emblée. Donc l'ordre, en fait, c'est ça. L'ordre qui va être découvert par l'histoire, enfin, par les études, etc., par la comparaison, par tout ce que je viens de dire, c'est jamais un ordre donné. L'ordre de la nature n'est jamais présent devant nos yeux. Il faut l'analyser, il faut la décomposer pour pouvoir la restituer cet ordre, et cet ordre se restitue par l'intermédiaire des cartes. Donc c'est assez important ça. Donc ce nouveau langage passe par la constitution d'une méthode, et donc chez Buffon c'était la méthode naturelle. Alors, les conséquences, j'en ai trop, il y en a deux. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'identité est définie à partir de la différence, alors qu'avant, elle émergeait de la ressemblance. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Cette remarque est fondamentale pour comprendre comment la science, c'est-à-dire le langage scientifique, se construit. Un animal, une plante, est ce que ne sont pas les autres. Alors, Foucault dit, il n'existe en lui-même qu'à la limite de ce qui s'en distingue. C'est-à-dire que la différence produit la limite qui délimite les contours de l'identité. La différence est productrice de l'identité. Et ça, c'est vraiment à l'âge classique qu'on rentre dans cette configuration. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est... comment dire autrement que mieux que ce que j'ai pu l'écrire. C'est que c'est à partir des différences, à partir du fait de poser des limites, que bah, finalement les contours de l'identité se créent. Donc on n'est plus dans une identité ressemblance, on est dans une identité différence. Deuxième conséquence, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les différences sont désormais inscrites en surface des corps. Le savoir sur les êtres sensibles non humains n'est plus une collection d'histoires rapportées par le cadre, n'est plus une histoire, une collection d'histoires, de métaphores, de tout ce que j'avais dit déjà tout à l'heure, mais le quadrillage minutieux des corps. C'est donc sur le corps physique que porte le savoir de l'animal. Et ça, c'est important parce qu'avant, le savoir sur les animaux, c'était pas sur le corps physique, mais c'était sur tout le réseau d'histoires qui le composait. Donc là, la connaissance est sur le corps et les différences, elles vont s'inscrire, on va les établir à partir des corps. C'est donc sur le corps physique que porte le savoir de l'animal. Je cite Buffon, « La partie intérieure qui fait le fondement de l'économie animale appartient à tous les animaux sans exception. » Donc le corps devient support de la nature de l'animal, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il devient l'expression de son être global, voire de son essence. Donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec Cuvier notamment, et au XIXe siècle, la différence n'est plus une différence inscrite sur la surface des corps, mais elle descend en profondeur, elle descend à l'intérieur des corps et s'inscrira en tant que différence fonctionnelle, c'est-à-dire biologisée et finalisée. C'est-à-dire que chez Buffon, il n'y a pas vraiment de finalisme, alors qu'au XIXe siècle, la différence, elle va se situer au niveau chimique, etc. Enfin, c'est plus une différence inscrite en surface. Alors, est-ce que vous voulez faire une pause? Parce que là, il y a une deuxième partie qui concerne plus Buffon. Là, c'est un peu la...
Je veux bien que tu m'expliques ce que tu viens juste de dire. Je n'arrive pas à comprendre bien que la différence...
Alors, en fait, c'est ça, c'est que... avec Buffon, notamment, il va... le corps, si tu veux, c'est le corps en surface qui est. Il n'y a pas de notion de vivant encore vraiment.
Avec Buffon.
Tout ce que le 19e siècle va développer au niveau, physico-chimique, les propriétés des corps, etc. On n'est pas là-dedans. Au 18e siècle, c'est vraiment la géographisation du corps, le calibrage du corps.
La physiologie, par exemple, c'est au 19e siècle.
Ouais, c'est pas encore cette époque-là, quoi. Et donc du coup, quelque part par là, c'est le fait de... Bon, il écrit « La nature des animaux », en fait, hein, c'est le titre de son ouvrage. Donc il va finalement naturaliser, on va dire, au sens... il va inscrire l'être... Enfin, c'est-à-dire que... Bon, je prends la chose autrement, mais... le discours scientifique sur les animaux va être produit à partir des corps. Alors qu'avant, il n'était pas produit à partir des corps, mais à partir de tout un réseau de discours qui pouvait être, ce que j'ai dit en début, les fables, etc. Or que là, qu'est-ce qu'un animal ? Un animal, c'est le corps. Et c'est le corps comme il fonctionne. Et c'est le corps objet.
Et c'est les comportements, alors. Mais vu comme comportement.
Voilà, voilà. Alors, c'est comportemental, mais ça va être vu comme action des corps, en fait. Et pas comme processus de sociabilisation, etc. Alors, justement, les tensions... c'est bon tu...
Ouais, tu vas savoir.
Est-ce que vous voulez...
Moi, non.
Je
n'ai pas compris ce que c'était. C'est utile ou pas utile?
Utile, moi, je trouve ça utile.
Qui est pour?
Qui est contre?
Il y a beaucoup d'absence.
C'est vraiment partie de cette époque herbier. Parce que lui, Buffon, il était intendant du jardin du roi, en fait, ce qui lui a permis d'observer les poissons.
Quand Dubon est français, mais je crois qu'il a beaucoup aussi sur les oiseaux, Canada, Amérique.
Buffon, lui, il a bossé sur les textes rapportés des explorateurs, des savants qui dessinaient justement une partie du décor national, en fait, une description. C'est intéressant. Il y a toujours une photo, en fait, enfin, une sorte de lithographie de l'animal, et après, cette découpe, etc., géographique, et après, comportement de l'animal. Enfin, j'en parlais un petit peu dans la deuxième partie.
Je pense que la fille, elle était aussi dépendante par rapport à l'excellence qui était acceptée. Est-ce que c'était indifférent ou est-ce que c'était refusé? Est-ce que c'était déjà dit comment penser scientifique?
Non, parce que je pense qu'on peut parler de chicken à partir du
17e
siècle. Le registre de connaissance, les savants, c'était la personne qui a rapporté à partir du 17e siècle. Les savants, c'était vraiment les savants. C'est vraiment à partir du 17e siècle. Les savants, donc en fait, la personne qui faisait son chant, la gueule, qui voyait quelque chose, pouvait parler, j'ai écouté l'animal faire ça. Après, ça se retrouvait peut-être dans les têtes, ça peut être traditionnel.
Il n'y avait pas de. En fait, avant, il y avait pas de façon que des gens se chargeaient de.
Il y avait un mélange entre le document, le recueil, la fable. En fait, la connaissance des animaux, c'était le poète. Moi, en fait, j'ai terminé mon devoir. Pour l'instant, je sais pas. pas exactement la vie propre, mais en gros, nous avons un projet que nous avons fait. On a la théorie. Il y a maintenant, il y a M. Guénissa qui j'ai compris quelques petites choses, mais j'en ai pas tiré une implication pour mon débat. C'est plus tard en fait que je suis revenue à faire. Et je pense que c'est une mine d'or si on arrive à se plonger dans la pensée du tout. Parce que moi, c'est dur de comprendre ce que c'est assez complexe, c'est sur le langage, etc. C'est moins dedans, je pense qu'on c'est vraiment des clés pour nous permettre de comprendre comment la discussion touche les discours sur la
monde. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on a eu la tendance à faire des hiérarchies ou établir un réseau d'êtres qui était bâti sur la hiérarchie ontologique, la hiérarchie des substances. Alors, dans le néo-platonisme, la substance rationnelle, la substance mentale, etc. Là où, à l'âge moderne, c'est pas du tout comme ça, c'est seulement le corps. J'aime bien la consistance sur le conseil des géographies du corps, parce que c'est vraiment une image.
bien. On va le comprendre très très bien. Je vous fais des forces. C'est vraiment, comprendre le fait qu'avant c'était différent et qu'à partir du 18e siècle, il y a quelque chose qui change. Et nous, ça a changé encore depuis. Ça permet justement de voir que finalement, l'animal, c'était une transformation. L'animal scientifique, c'est l'animal scientifique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'avant on pouvait voir, ce qu'était l'animal terrestre. Et peut-être, ça c'est ma conclusion, c'est ce qu'il n'y a pas pour les gens qui font partie du mouvement libération animale, un enjeu par rapport à ça, c'est de penser autrement que l'animal. Il y a peut-être d'autres réseaux d'exploration de l'animal, décoller cet animal du regard scientifique. Donc, tu vois, ça c'est le fait que donner des définitions de l'animal, ça reste quelque chose de très biologique. Pour moi, c'est vraiment une frêle barrière qui nous empêche de changer des choses. Parce qu'on est, on pense à l'animal par le regard, par des mots, par un discours, par des représentations qui sont encore plus scientifiques. Ah oui, je peux le Et ça, c'est vrai que j'avais pas encore trop vu ça quand j'ai fait. Et c'est vrai que j'ai exploré l'animalité à travers l'art, à travers la poésie, en essayant toujours de créer une autre langue, pour d'autres représentations, ça a aussi une force, pour lui permettre de... Ouais. Abstrait. D'accord.
Je vais essayer. Oui, bien.
Donc
là, c'est
Joseph. D'accord.
Ça permet de donner un contenu un peu précis.
D'accord. Pour l'ascendant. Pour l'ascendant, j'avais fait une. Tu vois, le corps, les parties du corps humain avaient leur similitude dans les parties terrestres et dans l'ascendant.
Oui, les analogies, les formes de composition.
Ben ouais, enfin, c'est vrai que c'est dur. Faut que je pense. Est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment. Trop abstrait.
Ouais, moi je trouve que c'est trop abstrait. Justement parce que j'ai pas assez de choses qui permettent de s'ancrer dans. De se représenter quelque part, pas visuellement, mais.
Sensiblement.
Ouais.
Mais bon, là, c'est si je me relis bien, ça c'était la partie un peu la plus théorique.
Oui, quoi. C'est ça, ouais. La présentation de l'esprit du temps.
Ouais,
c'est
voilà. Ça. Alors que. La deuxième partie, ouais, c'est. Ouais, c'est plus la réception de l'animal.
C'était l'année dernière,
c'est plus terre à terre. Différentes anthropologiques.
Sauf qu'il y a parmi les gens. Tu manges des
plein de. Non,
ouais.
parce qu'ils font pas. Mais je crois que ça a changé, parce qu'ils n'ont pas leur type de jeu, en fait. Et ils mangent pas beaucoup moins. Mais je pense qu'il y a un truc qui.
Mais en fait, c'est que. À partir de ces événements.
Il doit y avoir une fluctuation. C'est pas toi qui gères, c'est la machine.
Pareil.
Et c'est pas parce que tu avais eu dans une adresse qui ne se fait quasiment jamais. Ils sont pas dans le cas.
Est-ce que dans le monde scientifique de la connaissance actuelle, c'est dénigré ce mode de connaissance-là?
Oui, j'avais complètement en fait.
Parce qu'en fait, le mode de connaissance de l'analogie, il peut aussi être vachement faussé.
Je ne connais pas une autre qu'à faire.
Peut être. En
fait. La pensée par analogie, c'est plus une. En ce qui me concerne, c'est une réponse qui permet d'explorer le monde, qui ne permet pas de. C'est-à-dire que tu auras beau comparer ce qu'a fait une symbolique à ce qu'a fait une animale, ça te donne une complexité, tu vois. Mais vraiment, savoir ce que c'est que.
Oui, tout à fait.
Mais tu ne sais pas, en fait, parce que tu peux l'analyser pour les voir, mais c'est pour comprendre les voies qui régissent. Ce rapport à
Donc là, c'est plus une démarche. Donc,
c'est ce que je pense. Ouais. En fait, c'est clair dans la science, connaissance scientifique, il y a le raisonnement, c'est marqué, c'est pareil. Et puis, il y a des mots.
Oui.
Dans tout ce qui est scientifique, même il y a différents types d'analyses. Il y a plus ce rapport à la connaissance où on pense par analyse.